Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Bonjour à vous, chers auditeurs. Alors, comme chaque mois, nous découvrons ensemble l'histoire locale, l'histoire de Chartres, grâce à l'éclairage apporté par les fouilles et les études menées par les archéologues de la ville de Chartres. Alors, nous allons aujourd'hui aborder avec Stéphane Herouin, anthropologue au sein de la direction de l'archéologie, la suite de ce que nous avions vu dans l'émission précédente, c'est-à-dire les pratiques funéraires et quelques exemples particuliers. Et nous reprenons du coup notre cheminement après la période antique. Stéphane, juste pour ceux qui n'auraient pas suivi la première émission, qui n'auraient pas eu la chance de nous entendre, en deux mots, le métier d'anthropologue.
Alors, le métier d'anthropologue, en particulier en archéologie, ça va être donc l'étude des squelettes ou des ossements, puisque pour les ossements brûlés, c'est un petit peu particulier. Une étude biologique, une étude métrique, pathologique, enfin, en fin de compte, on essaye de caractériser le mort et par là même la population vivante. Et puis l'étude des pratiques funéraires, ce que nous voyons depuis la précédente émission.
Donc là, on reprend en fait notre exploration de ces pratiques qui donc varient au fil des siècles. On s'était arrêté à l'époque antique où on voyait que la pratique de l'inhumation, donc le fait d'enterrer les morts, devenait la plus courante. Et à partir donc de ce IVe siècle, arrive aussi le christianisme. Qu'est-ce que cela va changer au niveau des pratiques funéraires et de vos découvertes ?
Alors, en fait, on l'a vu dans les périodes précédentes, il y a effectivement une utilisation assez fréquente de la crémation, en particulier donc pendant la période gauloise, mais même pendant la période antique. Mais nous avons quand même effectivement de l'inhumation qui va particulièrement se développer effectivement à partir du IVe siècle. En fait, la disparition de la crémation et on va dire l'expansion du christianisme sont probablement dissociés. Ce n'est pas l'un qui provoque l'autre, et ça se passe de façon contemporaine, effectivement, mais ce n'est pas l'un qui est la cause de l'autre. En fait, on observe une généralisation de la pratique de l'inhumation dans l'Empire romain, et en particulier chez les empereurs, à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, et donc c'est Antonin le Pieux, le premier, qui va se faire inhumer. Et puis ça va diffuser lentement, bien sûr, dans les autres couches de la société. Dans le même temps, effectivement, le christianisme, lui, va se développer lentement à partir du IIe siècle après Jésus-Christ dans l'Empire romain. Mais il ne faut pas oublier, bien sûr, que les premiers chrétiens sont quand même assez persécutés pendant l'Empire romain. Tout ceci va changer, en fin de compte, avec la conversion de l'empereur Constantin, et surtout l'édite de Milan, en 313, va reconnaître, en fin de compte, on va dire quelque part, le christianisme. C'est-à-dire que là va pouvoir réellement se développer le christianisme, qui va devenir la religion officielle de l'Empire romain à partir de la fin du IVe siècle. Mais on voit que déjà, la crémation, à la fin du IVe siècle, elle a quasiment totalement disparu de l'Empire romain.
D'accord. Donc en fait, c'est ces deux phénomènes, cette pratique qui évolue donc à partir du IIe siècle au niveau de l'Empire et l'arrivée du christianisme, qui lui aussi, je crois, interdit...
Oui, alors tout à fait. Donc le christianisme, il faut le savoir, c'est même jusqu'au XXe siècle, le christianisme interdit, on va dire, entre guillemets, la crémation, puisqu'il faut retourner poussière, etc. C'est pour l'âme, dans la religion chrétienne, c'est comme ça que c'est écrit.
Quelles sont les traces donc, de ces pratiques chrétiennes à Chartres ? À quel moment on commence à les percevoir ?
Alors, plus que des pratiques chrétiennes, pratiques chrétiennes, voilà, c'est pour les premiers siècles du christianisme, ça va être assez difficile à prouver qu'il s'agit réellement de pratiques chrétiennes, puisque si nous n'avons pas les bâtiments associés, donc les églises en particulier, ou les chapelles, c'est assez compliqué, on va dire, de le montrer. On a vu, lors de la précédente émission, par exemple, pour Saint-Barthélemy, qu'il y avait deux dispositions différentes des sépultures au cours de ce IVe siècle. Certaines qui étaient ouest-est, On pourrait dire, tiens, elles respectent le rythme chrétien, mais c'est les premières, donc début du quatrième, et d'autres qui sont nord-sud, qui sont postérieures. Donc là, on voit bien que probablement cette nécropole n'est pas encore liée. Totalement mmh. chrétienne. Mmh. À la fin du IVe siècle jusqu'au début du VIe siècle, on connaît donc la grosse nécropole de Saint-Chéron, donc sous le lycée Fulbert actuel, où plus de 500 sépultures ont été fouillées et ont... L'estimation pour cette nécropole, c'est quand même quasiment 6000 tombes.
C'est
énorme. Alors bien sûr, ces 6000 tombes, c'est la totalité, donc c'est probablement beaucoup plus large que la datation que je vous ai donnée tout de suite. Là, ce sont les tombes qui ont été fouillées, qui datent entre la fin du 4e et le début du 6e siècle. Et on commence à voir des pratiques qui s'installent. Par exemple, les sépultures qui vont être disposées en rangée. Alors, c'est pas encore des rangées bien nettes comme les cimetières qu'on connaît actuellement, mais ça commence, voilà, vous voyez, il commence à y avoir une disposition des morts. Les corps vont être quasiment tous déposés sur le dos. Ils vont suivre la direction ouest-est. Il va y avoir une utilisation en majorité de cercueils cloués. Alors, on commence à voir qu'effectivement, là, on commence à rentrer dans ce que l'on connaît des pratiques chrétiennes. Sur ce site en particulier, alors les quelques tombes, les plus anciennes en particulier, qui vont être maçonnées. Donc voilà, il y a des structures maçonnées autour, etc. Et puis on va effectivement, pour la majorité de celles qui ont été fouillées, donc 5e, début 6e, on va retrouver donc des fosses simples avec le dépôt du corps en cercueil. Il y a peu de mobilier associé, ce qui pour cette époque-là est assez courant.
D'accord.
Voilà, puisque je vous ai dit, 500 tombes fouillées, il n'y a que 12 tombes qui présentent du mobilier. Donc, mobilier qui peut être des boucles d'oreilles, des épingles à cheveux, bracelets, bagues, monnaie, etc.
Stéphane, est-ce qu'il y a un autre lieu, d'autres lieux connus de cette organisation liée du coup au premier chrétien ?
Alors, on va ensuite assister, par exemple, avec l'église de Saint-Martin-en-Val, donc qui est probablement une des plus anciennes églises de Chartres, puisque dans la topographie chrétienne, elle est quand même très importante. Donc au courant du 6e, 7e siècle, donc il y a des fouilles en cours dans cette église, des sarcophages en calcaire ont été retrouvés, donc correspondant à des morts du 6e, 7e siècle. Et en quoi cette église est importante ? Eh bien, il s'agit probablement du lieu d'inhumation des premiers évêques de Chartres. Alors, on ne les a pas encore retrouvés, hein. c'est pas ça que je veux dire, mais on sait que c'est indiqué dans les textes que voilà, les premiers évêques chartrains auraient été inhumés dans cette église, donc ce qui montre son importance.
Mais je crois qu'à proximité, il y a d'autres cimetières, c'est ça, à côté de l'église Saint-Martin-en-Val ?
Alors, tout à fait. Alors, c'était lors des recherches sur le sanctuaire antique, puisque nous sommes juste à côté, nous sommes même en plein dedans, là, dans ce sanctuaire. Nous avons effectué des sondages, ce qu'on appelle les sondages, donc nous creusons des tranchées, dans la place Saint-Brice, donc, qui est juste à côté de l'église, et nous avons eu la surprise de découvrir un cimetière paroissial qui n'était pas connu. Alors on savait qu'il y avait une autre église à côté de l'église de Saint-Martin-en-Val, qui est l'église Saint-Brice, qui a été détruite. Et donc ce cimetière est probablement un cimetière paroissial, donc rattaché à cette église Saint-Brice, et ses sépultures dataient des 11e, 13e siècle. Donc vous voyez, là il y a un petit saut dans le temps, on est bien dans la période médiévale, où on retrouve, cette fois-ci, des cimetières paroissiaux autour des églises. Thank you.
Stéphane, on a évoqué donc l'église Saint-Brice et ce cimetière paroissial, et puis l'église Saint-Martin-au-Val qui était peut-être aussi à un moment donné rattachée à l'abbaye. Est-ce que c'est courant d'enterrer des morts dans les églises? Je sais qu'à la cathédrale, par exemple, il n'y a aucun sarcophage, aucun mort au sein de la cathédrale. Je crois que cette pratique est par contre différente dans les églises.
Alors, tout à fait. Alors, après, il faut voir si le cachartrain est un cas particulier. Je ne connais pas les pratiques funéraires sous toutes les cathédrales de France, mais dans le sous-sol de la cathédrale de Chartres, effectivement, il était interdit d'inhumer. Donc, normalement, il ne doit y avoir aucun corps sous le sol de la cathédrale. C'est pour ça aussi qu'on le retrouve probablement les premiers évêques chartrains dans d'autres églises. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, l'église de Saint-Martin-en-Val est probablement la plus ancienne, enfin, l'un des plus anciens bâtiments chrétiens. Donc, on ne sait pas s'il existe déjà une cathédrale à cette époque-là, probablement pas. C'est quand même assez courant pendant la période médiévale de trouver, de venir inhumer des morts dans le sol des églises. On en retrouve aussi, par exemple, à l'église Saint-Pierre. Il y en a aussi. En particulier, on pense que l'évêque Fulbert a été enterré à Saint-Pierre. Alors là, on est un peu dans le temps un peu plus récent, on est autour de l'an 1000.
Alors justement, pour aborder la question de cette église Saint-Pierre, donc de l'autre côté de la ville, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y avait, comme dans le quartier Saint-Brice, des cimetières associés?
Alors, l'église Saint-Pierre c'est un cas encore un petit peu particulier, comme Saint-Martin-en-Val, en fin de compte, puisque au départ, c'est une église abbatiale. C'est une église abbatiale, donc rattachée à un monastère, donc qui est juste à côté, hein, c'est le lycée Marceau. Le lycée Marceau est installé dans les restes de ce monastère. Et donc, on sait qu'à Saint-Pierre, il y a au moins deux cimetières, puisque des fouilles à l'intérieur du cloître ont probablement mis en évidence les sépultures et bien des religieux. Et à l'extérieur de cette église Saint-Pierre, donc sous la place Saint-Pierre actuelle, il y avait une église paroissiale qui était l'église paroissiale Saint-Hilaire.
D'accord. Et là probablement côte à côte.
Voilà, et probablement là un cimetière paroissial qui était autour.
Pour les habitants du quartier.
Tout à fait.
Et durant le Moyen-Âge, donc vont se développer donc ces cimetières paroissiaux attachés aux églises, mais est-ce qu'il y a des pratiques particulières? On avait vu pour l'époque gauloise, hein, la crémation, on accompagne le mort, il y a toute une cérémonie. Est-ce que là, on va retrouver des gestes particuliers?
Alors, l'avantage pour la période médiévale, c'est qu'on va avoir nettement plus de textes que pour la période précédente, pour la période antique. Et donc, il va être pour nous nettement plus aisé, en fin de compte, de faire la relation entre ces textes et les gestes que l'on met en adéquation, que l'on observe. Alors, effectivement, hein, ça va être des pratiques qu'on a déjà un petit peu décrites juste avant, c'est-à-dire qu'on va retrouver un usage quasi exclusif du cercueil, par exemple. On va trouver des orientations particulières, donc ouest-est, etc. C'est-à-dire qu'on va savoir aussi, d'après ces textes, s'ils ont été déposés avec des vêtements, s'il y a eu des cérémonies autour, ce qu'on ne peut pas forcément nous voir uniquement sur le squelette. Et là, c'est, en fin de compte, la confrontation entre les données archéologiques et les données des textes qui vont nous donner des solutions.
Stéphane, j'avais une question quand même, parce qu'à l'époque médiévale, donc on a ces cimetières attachés aux églises, et donc on est en cœur de ville, les morts sont vraiment avec les vivants, mais aujourd'hui, je ne vois plus de cimetière, on va dire, dans la ville intramurose, dans le cœur de ville. À quel moment s'effectue ce changement et quelle est l'origine de ce changement?
Alors effectivement, comme nous l'avions évoqué dans l'émission précédente, on voit déjà là, par exemple, une grosse différence entre l'époque antique, où les morts sont à l'extérieur de la ville, et cette époque médiévale, en particulier donc, on va dire à partir des siècles les plus récents, où les morts sont à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire que les vivants, effectivement, vivent, entre guillemets, parmi les morts. Ou c'est les morts qui sont parmi les vivants. Et en fin de compte, sur Chartres en particulier, ça va être plutôt à partir du XVIIIe siècle qu'on va, pour des raisons de salubrité entre autres, mais il y a d'autres raisons, hein, les raisons de place, etc., où les cimetières vont être déplacés l'extérieur, ou en tout cas en marge de la ville, par exemple à Saint-Chéron, hein, où on trouve le cimetière actuel. C'est aussi un changement de la vision de la mort, hein, puisque avoir les morts parmi les vivants, c'est une vision un peu particulière de la mort. Et là, on va rejeter un peu, voilà, c'est le côté un peu insalubre de la mort, on va dire, on va rejeter les morts en dehors des murs. Un exemple d'une fouille récente, par exemple, sous le siège du Crédit Agricole, hein, qui est encore en travaux, il y avait une église, donc l'église Saint-Michel, qui a été détruite en 1793. Alors, d'après la date de la destruction, on devine pourquoi. Et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un cimetière paroissial qui était associé à cette église, dont on a retrouvé des traces. On a retrouvé plusieurs sépultures lors de la fouille sous le Crédit Agricole. Une partie de ce cimetière a été déplacée au XVIIIe siècle.
Donc les cimetières paroissiaux sont déplacés, donc, ou rassemblés en tout cas dans un des cimetières les plus connus actuellement, qui est donc le cimetière de Sacheron, de la ville de Chartres. Aujourd'hui, on repratique à nouveau la crémation, en plus de l'inhumation. Et à quel moment, du coup, s'opère ce changement et que cette pratique est réintroduite?
Alors, comme on le disait dans l'émission précédente, effectivement, la religion chrétienne interdit normalement la crémation. Mais c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle, en fin de compte, qu'on va voir la réapparition, enfin, la réémergence de cette pratique qui, dans un premier temps, va être toujours interdite, normalement, par la religion chrétienne, puis va être tolérée avec des nouveaux écrits, mais c'est quand même au milieu du XXe siècle qu'il faut attendre ces écrits. Alors, se développe effectivement ce phénomène de crémation. Alors, on pourrait dire, voilà, c'est pour des problèmes de place dans les cimetières, pour ce genre de choses. Il faut ne pas oublier aussi qu'il y a le coût financier de l'enterrement.
En tout cas, merci Stéphane de nous avoir éclairé sur l'évolution de ces pratiques au fil des siècles. Et nous allons du coup faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après avec vous Stéphane pour voir quand même quelques cas particuliers qui ont retenu votre attention. Donc nous reprenons notre émission Histoire et mémoire consacrée à l'histoire de Chartres et plus particulièrement aujourd'hui les pratiques funéraires, et nous allons aborder maintenant avec Stéphane Herouin qui est anthropologue au sein de la direction de l'archéologie municipale des cas particuliers lors des fouilles hein, récentes où vous avez fait des découvertes qui ont vraiment retenu votre attention. On est pour rappeler à nos auditeurs hein, à l'époque médiévale. Quelles sont donc ces découvertes qui ont retenu votre attention?
On va parler de deux sites en particulier. On va parler du site de la Courtille, donc sous l'ancienne piscine municipale, Et puis, dans un deuxième temps, on reviendra sur la fouille sous la médiathèque pour la construction de l'auditorium.
Alors, premier site, Stéphane, qui a été pour vous une découverte un peu extraordinaire, c'était en 2012, sur le site de la Courtille, effectivement, sous l'ancienne piscine.
Tout à fait. Alors, on savait qu'il y avait probablement des sépultures dans ce quartier, puisque lors de la construction de l'IUT, qui est juste à proximité, hein, qui est juste en contrebas, ont été trouvées plusieurs tombes. Et aussi, lors du diagnostic, donc qui est en amont de la fouille, avaient été trouvés plusieurs ossements humains. Donc on savait probablement qu'il y aurait des sépultures à proximité. Là où c'est un peu plus surprenant, c'est qu'en fin de compte, c'est une trentaine de sépultures environ qui ont été découvertes, datées des 7e, 8e siècles. Donc une datation un petit peu particulière, puisque je ne vous en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Mais surtout, ces sépultures sont placées dans des fossés qui longent une voie, donc une voie antique qui va perdurer pendant le Moyen-Âge, hein, donc qui perdure pendant un petit moment, ce qui est quand même un emplacement assez particulier, surtout pour cette datation, puisque normalement les morts, là, sont bien regroupés dans les nécropoles ou les cimetières, puisque 7e, 8e siècle, nous commençons à avoir des bâtiments religieux, donc on peut parler de cimetières.
Et est-ce qu'on a, ce que vous avez là, d'après l'étude, quelques indices, pourquoi cette trentaine d'individus le long d'une voie?
Alors l'étude n'est pas encore réalisée, donc ça va être en début d'année 2017. Nous espérons avoir des indices, en particulier sur les pratiques funéraires, pour voir si il s'agit bien de sépultures. On peut penser par exemple à de rejets de corps dans les fossés, etc., mais d'après les observations de terrain, il s'agit bien de sépultures. Donc les inhumants, entre guillemets, ont bien creusé dans le fossé des fosses pour déposer ces morts. Mais il faudra regarder, par exemple, s'ils sont déposés dans des coffrages ou des cercueils en bois, dans des linceuls, en pleine terre, etc. Donc ça, l'étude nous en dira plus. De plus, il faudra savoir... Par exemple, peut-être en reprenant aussi les squelettes qui ont été trouvés sous l'IUT, savoir s'il s'agit d'un même ensemble ou si ces morts sont complètement séparés du reste des autres morts et savoir ce qu'ils font effectivement dans ce fossé.
Donc l'enquête va se poursuivre en 2017 pour découvrir justement ce lien hypothétique ou non entre les deux sites, l'IUT et la Courtille, et puis pourquoi ces corps ici. Donc on a hâte d'en savoir un peu plus bientôt. Et la deuxième découverte qui vous a étonné, c'est du coup cette découverte sous la médiathèque lors de la fouille de l'amphithéâtre.
Alors tout à fait. Alors là, c'est ce qui est intéressant dans cette découverte, c'est donc lors de la fouille d'une fosse, nous avons retrouvé une stèle funéraire. Donc déjà c'est très intéressant parce qu'on n'en trouve pas tous les jours, mais cette stèle funéraire portait une inscription en hébreu, datée probablement du XIIIe siècle. Donc nous sommes en pleine période médiévale, et donc nous avons fait appel à des spécialistes, hein, c'est eux qui nous ont donné la datation, alors c'est d'après la forme des lettres, etc. Et c'est eux aussi qui nous ont dit que c'était une stèle funéraire, alors qui est incomplète, certes, mais... on sait qu'il s'agit d'une stèle funéraire indubitablement. D'accord. Alors, pourquoi c'est intéressant pour nous? Puisque à cet endroit-là, nous sommes juste en bordure de l'enceinte médiévale de Chartres.
Donc on n'est pas à l'intérieur de la ville.
On est à l'extérieur de la ville médiévale, puisque, comme chacun le sait, il suffit d'aller dans le parking souterrain, par exemple, on voit des fragments de l'éperon. La muraille médiévale se situe sous la place des Éparts. Donc là, nous sommes légèrement à l'extérieur de la ville médiévale. Alors en quoi c'est intéressant? C'est qu'on sait que les cimetières juifs, alors les juifs n'étaient pas très bien perçus par le reste de la population, mais ils sont là quand même, on le sait, enterraient leurs morts en dehors de la ville, contrairement aux chrétiens qui, eux, sont à l'intérieur.
Et est-ce que vous avez des indices? Est-ce qu'on serait là sous un cimetière ou... comme vous le disiez pour le site de la gare, est-ce que ce sont des stèles qui se sont retrouvées, qui peuvent se retrouver là, entre guillemets, par hasard, en ayant été déplacées?
Alors effectivement, la stèle n'est pas en place, puisqu'on l'a retrouvée dans une fosse, donc elle est abandonnée dans cette fosse. Ça nous a un petit peu titillé, on va dire, voilà, en se demandant si, alors, bien sûr, elle a dit qu'il y a un cimetière juif quelque part, mais s'il n'était pas à proximité. On peut avoir un début de réponse, en fin de compte, en regardant la toponymie des lieux, donc c'est-à-dire en regardant le nom des lieux, en fin de compte. Alors, existe encore la rue de Babylone, mais il faut savoir que sur les plans médiévaux, c'est effectivement la censive de Babylone dans ce quartier-là. Commence à faire des indices un petit peu récurrents qui nous laissent penser que probablement sous ce quartier était en place le cimetière juif médiéval.
Stéphane, c'est sur voilà, cette dernière découverte que nous allons conclure l'émission. Encore merci pour ces, voilà, ces deux moments passés ensemble. On a pu parcourir, voilà, à travers les siècles les pratiques funéraires exercées par nos ancêtres. En tout cas, on se retrouve, nous, encore le mois prochain pour un autre aspect de la vie de l'histoire de Chartres, puisqu'on va aborder avec Frédéric Dupont les premiers Chartrains, les premiers paysans chartrains à l'époque néolithique. Pour information, sachez qu'un article dans le numéro de novembre du magazine municipal Votre Ville présente les observations menées par Stéphane récemment dans l'église Saint-Pierre. Si vous souhaitez réécouter les émissions d'Histoire et Mémoire consacrées à Chartres, n'hésitez pas à les télécharger ou les réécouter directement sur le site de Radio Grand Ciel. Je vous souhaite une bonne journée et bonne écoute sur Radio Grand Ciel.